Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Ni chaud ni froid. Ce soir, nous accueillons aujourd'hui Émilie Malian et Alice Barré. Lou, qui est toujours à mes côtés, oh, et Nathan aussi. Vous pouvez présenter les invités.
Alors, on va dire bonsoir à nos chers auditeurs, chères auditrices, pour une nouvelle émission d'Angelo, que nous espérons aussi festive que les précédentes. Alors, c'est toujours Nathan qui assure la technique. De manière magistrale, vous allez le voir.
Émilie Magnon, nous allons commencer par vous. Vous vous basez sur des postures de corps humain pour réaliser vos dessins artistiques, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Je viens de finir mes études à la Cambre et je fais en effet des grands dessins, généralement avec des postures un peu étranges ou dérangeantes, où les modèles sont assis ou debout avec un pied par exemple de travers ou une main mise de façon un peu étrange.
Et qu'est-ce que ces postures représentent pour vous ?
Ces postures, pour moi, donc c'est un peu une question de mystère. Ça interroge et ça met un peu mal à l'aise ou pas.
Lou ?
Moi, ce que vous me dites, je viens de voir un de vos dessins qui m'a vraiment très fort marqué. C'est très difficile en radio de décrire ce qu'on voit, évidemment. Mais effectivement, j'ai remarqué tout de suite une posture très particulière. Alors, ça me fait penser, moi, à mon univers pictural, à Francis Bacon. Est-ce que je suis dans le bon ? Est-ce que je suis...
Oui, ça peut. C'est vrai que c'est un artiste que j'aime bien à regarder. Je m'inspire de plein de différentes...
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on ne sort jamais de nulle part. On a toujours une inspiration qui vient. Donc, quelles sont les sources d'inspiration que vous avez eues au niveau pictural ?
Moi, j'aime beaucoup, c'est le mouvement pré-raphaélite.
Ah oui ?
Oui, et donc j'avoue que John William Waterhouse, c'est un des grands peintres que j'adore regarder. Et j'ai beaucoup de ses œuvres en impression dans mon atelier ou à la maison.
D'accord.
Et alors, dans les artistes plus contemporains, il y a Jenny Saville, qui est une peintre anglaise et qui peint beaucoup de corps féminins.
Oui.
De manière très magistrale, des grandes peintures et que je trouve extrêmement douée et j'adore également regarder ses créations.
Et quand Angelo a dit vous avez fait la Cambre, donc vous avez fait la Cambre en quelle section ? Parce qu'il y a plein de sections à la Cambre.
Oui, en effet. Moi, j'ai fait le dessin.
Oui.
Et donc j'ai fait un master, donc j'ai fait 5 ans là-bas et je viens de finir ici en juin. Et j'ai choisi le dessin, je pense, parce que c'est quelque chose qui me semblait une base et qui m'attirait principalement. Et c'est quelque chose de très humble, qu'on peut faire un peu partout.
Oui.
Et de très facile à faire. On a des crayons ou même pas un bout de bois et on trace dans le sol et sur la terre. Et voilà.
Vous avez toujours un petit carnet dans votre poche pour dessiner, croquer quelque chose, quelqu'un ?
Oui, mais parfois, si j'ai pas de carnet, c'est sur ma main ou voilà.
D'accord.
Donc, voilà.
Émilie, vous vous basez sur de vrais modèles ?
Oui. C'est souvent des personnes de mon entourage, en fait. Et j'ai fait beaucoup du modèle vivant au début, quand j'ai commencé à travailler plus profondément sur les dessins et que j'ai commencé mes études principalement. Mais maintenant, c'est vrai que je finis beaucoup avec la photo et que je commence à faire beaucoup des dessins d'après photo. Au niveau du temps, c'est plus simple et c'est vrai que les modèles ne sont pas toujours présents pour poser pendant 2-3 heures. Et quand on fait justement des positions un peu étranges, c'est très difficile de leur demander de rester pendant dans des positions de yoga pendant des heures.
Ah oui.
Votre coup de crayon est très juste et précis. Ça demande une grande discipline.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de rigueur et ça prend du temps. Mais je pense que c'est avant tout une passion et quelque chose que j'aime. Donc quand j'ai une idée en tête, je ne me rends pas compte que j'ai besoin d'une discipline ou autre. En fait, juste je travaille pendant des heures et je veux que ce soit fini au plus vite.
De toute façon, pour avoir réussi à la Cambre, c'est une école extrêmement difficile. Et donc, d'abord, bravo. Hein. Et pour vous, parce que vous aviez une motivation pour aller à la Cambre. Déjà, après, je suppose, vous avez suivi un parcours, disons, normal, Athénée ou collège, etc. Et puis, vous avez choisi vraiment de faire le dessin. Mm-hmm. Ce qui est très difficile comme choix, je trouve. Et vos parents vous ont permis ça, parce que j'ai eu beaucoup... J'étais prof, moi. Hein. Et donc, il y avait des élèves qui avaient ce désir de pouvoir faire une carrière artistique. Et puis, les parents y mettaient un peu... Pas parce qu'ils voulaient empêcher leur enfant de faire quelque chose, mais parce qu'ils, plutôt par peur.
Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un ménage artistique. Maman a fait la Cambre, en fait.
D'accord.
Elle a fait l'atelier de reliure il y a quelques années maintenant. Oui. Et mon papa était directeur de l'Académie d'été. J'ai grandi, en fait, dans cet univers.
D'accord.
Et c'est vrai que quand j'ai fait ce choix, ils m'ont tous les deux mis en garde que ce ne serait pas facile, que ce n'est pas quelque chose d'aisé et qu'il faut se battre sans doute tous les jours pour y arriver. Mais j'avais vraiment envie d'essayer et de voir où ça allait me mener. Et ils ont été incroyables. Ils m'ont supportée dans toutes mes études et dans tous mes projets. Et c'est vraiment mes plus grands fans, je crois.
C'est magnifique, cette permission qu'on vous a donnée.
C'est une chance incroyable, ah, c'est oui. vrai.
Nous allons passer une chanson qui représente le mieux votre style et votre univers artistique. Vous avez choisi
J'ai choisi Teddy Swims et sa chanson s'intitule Bad Dreams. Et alors... Oui, je voulais juste dire que c'est un chanteur que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup en travaillant. Et donc, pour moi, il fait un peu partie de mon quotidien artistique, surtout en ce moment.
Je pense que c'est important d'avoir... on va s'adresser bientôt à vous. Mais c'est très important d'avoir quelque chose qu'on aime d'une autre discipline et qui ouvre des portes vers sa propre discipline.
Oui, je pense beaucoup. J'aime aussi beaucoup écouter des livres, me plonger dans la littérature et ou la radio et avoir beaucoup de sources d'inspiration qui sont autres que les œuvres picturales, je pense.
Oui, c'est important. Hein.
Alice Marie, nous allons passer à vous. Vous êtes une chanteuse lyrique.
Oui, c'est ça.
Maintenant, vous êtes prof.
Professeur de flûte traversière, exactement, et coach vocal.
Vous avez chanté dans de grandes institutions auparavant.
Oui, c'est ça, l'Opéra de Bruxelles. Je veux dire un petit peu dans le désordre. Donc l'Opéra de Bruxelles, la Monnaie, comme tout le monde connaît, l'Opéra de Lille, de Gand, et dans le cadre du rock, du spectacle Piano Plage, qui est une sorte de comédie musicale, rock familiale. Ce spectacle a été joué au Palais 12 du Hesel, au Cirque Royal, à la salle Bobineau de Paris, au Palais des Sports de Paris. Donc, il y a des endroits assez sympas, à fouler.
Vous avez de l'expérience ?
Un petit peu.
Le lyrique est une discipline plus dure à apprendre, à maîtriser que d'autres styles de musique ?
Alors, c'est difficile à dire, je pourrais juste comparer à la flûte traversière, mais il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, il y a beaucoup de chanteuses lyriques qui sont flûtistes. Il y a juste Sophie Kartauser, que je connais, qui est clarinettiste, mais énormément de chanteuses sont flûtistes au départ. Donc il y a des similitudes au niveau de la respiration. La respiration qu'on utilise est une respiration basse et costale. En 5 minutes, ça va être compliqué de tout résumer, mais je ne dirais pas qu'il y ait des difficultés plus amples que dans d'autres disciplines, à part le fait qu'il y a beaucoup de petites choses auxquelles penser en même temps. Qu'il faut par exemple, après avoir bien inspiré, soutenir la voix. Et là, on va faire beaucoup d'abdos. On va utiliser notamment le muscle transverse qui se trouve en dessous des grands droits. On va utiliser la résonance du son et une posture. Donc, il y a quand même une posture à adopter qu'il faut exercer à peu près tous les jours pour avoir une bonne technique.
C'est un gros travail, ça englobe tout en fait.
Oui, c'est quelque chose de complet. Il y a vraiment une connexion à avoir entre la résonance et le soutien vocal. Mais disons que si on commence... Enfin, moi, j'ai commencé à 16 ans les cours de chant à l'académie. J'ai commencé à Bouillon. Mais la flûte traversière m'a ouvert des portes au niveau de la respiration, etc. Il y avait des choses qui étaient déjà acquises en commençant.
Alors moi, je me demandais comment est-ce que cet instrument, la flûte traversière, vous a séduite d'une certaine manière.
Alors c'est simple, je faisais de la danse classique au village et j'en avais un petit peu marre des cours. Et il y avait un professeur, en l'occurrence, au village qui jouait de la flûte traversière et on lui a proposé de me donner des cours.
Ah d'accord.
Il eût été oboïste, j'aurais joué du hautbois. Mais la clarinette, je pense que j'aurais arrêté parce que je n'aime pas trop.
Ou la contrebasse.
Non, je suis trop petite pour ça.
Ah, voilà, voilà.
Enfin, il y en a pour toutes les tailles, mais non, ça n'aurait pas été possible.
Et donc c'était un heureux hasard.
Oui, tout à fait. Et ça m'a plu.
Ah oui.
Ça m'a permis de m'exprimer.
C'est magnifique. Moi, je n'ai pas... pour vous avouer, j'ai suivi des cours de chant. Bon, ça n'a pas donné de grands résultats, mais c'est peu à peu.
C'est jamais perdu. Hein.
Non, je me suis beaucoup amusée. Mais j'ai quand même du mal à voir la connexion entre la flûte traversière et le chant. Enfin, vous parliez du souffle, c'est
surtout au niveau de la respiration dite abdominale. Je sais qu'on ne respire pas par les abdos, mais en gros, on met en relation des muscles. Non, il y a notamment le muscle du diaphragme qui va, avec l'inspiration, abaisser sur les viscères. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est abdominal. Ça se passe en bas. Mais on va utiliser les côtes flottantes également sur les côtés. Et la similitude, c'est au niveau de la respiration et du soutien. Donc le soutien, c'est je serre le périnée, je serre les abdos, et les deux sont identiques.
D'accord.
À ce niveau-là. D'accord. Après, c'est vrai qu'on fait résonner les sons d'une certaine façon, mais on n'a rien en main quand on chante. On est tout nu.
Ah, tout à fait.
On s'exprime
avec la voix, essentiellement, mais aussi avec ce qu'on est.
Oui, tout à fait, on exprime ses émotions, et d'office, il y a autant de voix humaines qu'il y a d'humains, donc chaque voix est différente, même s'il y a des imitateurs, etc., le timbre est différent selon les personnes. Mm-hmm. C'est ça qui est génial.
Alice Barré, la musique transmet des émotions. Que ressentez-vous quand vous enseignez le chant?
Alors, ce que je ressens, ce dont je me rends compte, c'est que l'élève va mieux après le cours. Et ça, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que on apprend à exprimer ses émotions. Tout le corps rentre en vibration, il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qui ne sont même pas palpables ou explicables. C'est propre à chacun. Et le fait que ça fait du bien à l'élève, ça me fait du bien à moi, parce que je sens que ça aide. C'est carrément thérapeutique, j'irai jusque-là.
Je pense effectivement. Pour avoir pris des cours de chant, à un niveau extrêmement... comment dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, simplement pour le plaisir. Mm-hmm. J'ai vu d'autres élèves qui étaient d'une telle timidité et puis qui passaient, grâce au chant, à quelque chose d'autre, parce qu'elles oubliaient, ou ils oubliaient, l'image qu'ils devaient donner dans la vie. C'est ça, mm-hmm.
C'est ça. Et quand on chante à l'opéra ou quand on joue au théâtre, on prend la peau de quelqu'un, on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre, et ça c'est top, parce que on laisse tout en coulisses, on est une autre personne, et ça aide.
Vous incarnez quelqu'un d'autre,
tout à fait,
et ça aide.
Ouais.
Et l'émotion passe.
Tout à fait.
Mm-hmm. Et quand vous avez monté sur scène, vous vous étiez pas trop stressé?
Ah si, d'ailleurs, comme maintenant, j'ai mon petit cœur qui bat. J'ai des chatouilles dans le ventre.
Bat-il vraiment comme au Théâtre Royal de la Monnaie ou à l'Opéra?
Ça s'est calmé, mais c'est pas évident. Pour une première fois à la radio, je dois dire que c'est pas évident de maîtriser, gérer son stress. Donc je pense que maintenant, à l'heure actuelle, il y a plein de techniques comme le yoga, l'hypnose, des gestions des émotions, donc du stress, etc. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un petit stress juste avant de monter sur scène. Ce qu'il faut, c'est que ça se passe avant et pas sur scène, voilà. Pour éviter les pertes de mémoire, ce genre de choses.
Oui, 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 oui.
Alors, ce qui est très drôle, c'est les rêves qu'on peut faire la veille ou même des années après, c'est se retrouver soit tout nu sur scène, ou alors ou avoir oublié ses partitions ou son costume. Et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de comédiens qui
font
ça.
Assez récurrent.
Ah, oui, tout à fait. Ah, des années après, on en rêve toujours.
De toute façon, un peu de stress, c'est normal.
Ah, l'adrénaline, c'est une petite
drogue sympathique. Voilà, c'est de l'adrénaline.
Oui, tout à fait.
Pas trop. Bon,
il faut savoir gérer encore une fois. Ouais, ouais.
Alice, nous allons passer l'air de Panima. Expliquez-nous cette chanson.
Alors, l'air de Pamina, donc la fille de la reine de la nuit, dans la flûte enchantée de Mozart. Ça, c'est un tout court extrait qui a été utilisé pour un peu de publicité, et ça a été enregistré dans un studio à Anvers il y a quelques années.
Alors, la voix, c'est soprano?
Alors, je suis soprano lyrique.
Lyrique, voilà, parce que je me suis un peu renseignée avant. Oui.
On aime bien nous mettre dans des petites cases.
Hein, mais... mais soprano, il y a soprano...
Ah, il y a toute une panoplie. Hein. Il y a coloratura, la reine de la nuit, la voix la plus connue. Je ne vais pas le faire maintenant, ça va être moche, je ne vais pas chauffer. Et donc, c'est une coloratura, donc c'est très agile, ça vocalise facilement et c'est plus fluet qu'une voix lyrique.
Oui.
Il y a aussi la voix de soprano wagnérienne, parce qu'il faut passer au niveau volume, au-dessus d'un orchestre wagnérien, ce n'est pas rien.
Oui, effectivement.
Voilà, en dessous de ça, on a la mezzo-soprano. En dessous, je dis au niveau...
oui, bien sûr, bien sûr.
Au niveau hauteur de son, oui. Hein. La mezzo, ensuite chez les hommes, ténor, baryton, baryton basse et basse.
Voilà.
Et les enfants, avant la mue, eux, chantent soprano. Et une fois que la mue est passée, à ce moment-là, on a une voix plus grave avec la modification du pharynx qui fait que la voix se modifie. Et chez les dames aussi.
Chez les dames aussi?
Oui, c'est moins flagrant. Ça passe un peu plus inaperçu, mais il y a toujours un passage durant l'adolescence.
Vous m'apportez quelque chose, moi je ne le savais pas du tout. Mm-hmm. Je pensais que la mue ne concernait que les garçons. Ah ben voilà, j'étais genrée. Je suis désolée. Eh bien, nous allons donc écouter.
La flûte enchantée.
Thank you.
ça finit un petit peu en queue de poisson.
Oh, moi j'étais partie pour écouter beaucoup plus.
Lou, par rapport à ce que vous avez envie d'écouter?
Je t'ai dit, Angelo, j'étais partie, moi, j'écoutais.
On était lancés.
Oui, tout à fait. Oui. En fait, je ne connais pas beaucoup d'opéras, mais c'est un des rares que j'ai vu. Donc, ça m'avait beaucoup touchée.
D'accord.
Nous allons passer à Amélie Magnan. Vous avez des expositions à votre actif, Amélie?
Quelques-unes, oui. Donc, l'année passée, j'ai pu exposer au CACLB, donc le Centre d'art contemporain du Luxembourg, pour le prix du Luxembourg, justement. Et donc là, j'étais avec une dizaine d'artistes pour l'exposition de ce prix. Après, j'ai eu une exposition à Virton, aussi avec le CACLB. C'était un solo show, donc une exposition personnelle, qui a duré de mi-août à mi-septembre. Et maintenant, je suis dans une exposition collective à Bruxelles, à Elevenstein. Ça se finit ce week-end, enfin le week-end prochain. Et ça s'appelle Drawing Now. C'est une exposition créée par deux commissaires qui sont venus sélectionner dans toutes les écoles de Belgique des étudiants pour pouvoir les exposer après leur diplôme et faire comme ça une scénographie tous ensemble. Donc je suis très contente de participer à cette expo en ce moment.
Ah, je vous comprends. Il faudra qu'on rappelle ça en fin d'émission puisque c'est encore jusqu'à la semaine prochaine, vous
c'est
allez
ça,
dire.
C'est ça, jusqu'au 15.
Pourquoi avez-vous choisi le dessin plutôt qu'une autre discipline ?
Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui me paraissait plus simple et c'est vite dit, j'ai envie. Mais je pense qu'en sortant de mes humanités classiques où j'avais fait latin, maths, je n'avais pas vraiment eu d'éducation artistique et je dessinais simplement comme beaucoup d'étudiants le font sur leur cahier et un peu à l'extérieur. Et je pense que c'est quelque chose qui me semblait plus simple d'accès du moins. Et donc je me suis lancée et j'ai tenté ce concours et c'est vrai que le dessin me semblait plus aisé que de partir en peinture alors que j'avais jamais touché à la peinture ou à la sculpture. Le dessin, c'était quelque chose que je connaissais avec mes petits crayons ou mes petits stylos en cours de français.
Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit et qui me semble important, c'est que dans l'enseignement, je ne sais pas à ma connaissance maintenant, mais en tout cas, moi, quand j'étais là, les cours de dessin étaient de moins... Enfin, je ne sais même plus s'il y en avait. C'est triste, parce que vous, visiblement, c'est un don. Et je suis contente que votre professeur de français ait permis que sur peut-être ces interrogations, vous fassiez des petits dessins. Parce que les élèves, ils font souvent ça. Et puis les profs, souvent, ils disent « Mais non, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est vrai, votre créativité s'exprimait par là. Et peut-être que certains profs l'ont compris. Mais je regrette vraiment amèrement qu'on ne donne plus suffisamment, en tout cas, de cours de culture, de dessin, de peinture, de musique dans les écoles. Ça manque à certains élèves, comme vous. Parce que vous avez la chance, sans doute, d'avoir un don, puisqu'on ne vous a pas appris à l'école.
Oui, je pense que j'ai eu cette chance, et puis de toujours avoir à la maison de quoi gribouiller, on va dire, et des parents qui me laissaient faire. Et donc, j'ai pu un peu développer quelque chose à côté. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'école, l'éducation artistique passe un peu à la trappe. Et si on ne décide pas d'être dans une école, dans une option spécifique, tout et qu'on continue dans un enseignement général, je pense que j'ai eu une heure de dessin en première année.
Voilà.
Et c'était pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était un cours que j'ai adoré pourtant.
Ah ben je comprends, mais c'est comme pour vous, hein, parce que maintenant dans l'enseignement, la musique.
Il y a certaines écoles qui bénéficient des cours de jeunesse musicale, donc
oui,
en très... maternelle.
Oui.
En primaire, il faut que le professeur soit, enfin l'instituteur soit porté sur la musique. À ce moment-là, il y a une période qui est dédicacée à un moment plus artistique. À mon époque, c'était le vendredi. C'était en 6e primaire. Et vers la fin, on n'avait plus trop le temps. Il fallait bosser pour le CEP.
Voilà, exactement.
Et sinon, en première et deuxième année générale, à ce moment-là, une année, certaines écoles donnent une heure de musique. Et la deuxième année, une heure de dessin par semaine.
Certaines écoles. Pas toutes,
d'accord.
Pas toutes, okay. Je pense. malheureusement. Mm-hmm. Mais bon, quand on a un don, on n'a pas besoin de ça. Mais je dis, certains, c'est tellement bien. Quoi, de... Parce que vous semblez dire que c'est tellement facile. Je vous assure que dessiner, c'est pas facile. Et chanter, non plus.
Mais une question pour vous deux. Un don, ça se travaille.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment un don au départ? Ou est-ce que c'est 20% une fois qu'on a ce don, le reste, c'est du travail? À une époque, la flûte traversière, c'était en dilettante, c'était pour l'amusement, etc. J'allais au cours privé, puis à l'académie. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qui me faisait me sentir vivante le plus par rapport à toutes les disciplines que je faisais. Et c'est quelque chose qui était d'office dans mes priorités pour les activités extrascolaires de mon fils, par exemple, qui lui joue de la trompette. Et donc, il y a la formation musicale. À mon époque, c'est deux fois semaine. Ça m'évitait le cours de catéchisme, ça m'arrangeait.
Je comprends.
Mais bah, y a les Beaux-Arts aussi, y a l'Académie des Beaux-Arts, toujours en extrascolaire, il faut que les parents soient disponibles.
Tout à fait.
Donc c'est pas toujours conciliable. Moi je joue les taxis toute la semaine, mais je sais que c'est pas pour rien.
Oui, tout à fait. Mmh. Plutôt que de don, on pourrait parler de passion.
Ah oui.
Ou d'importance, ouais, ça, c'est sûr. De sens.
Oui, ouais. Mmh. Ouais.
Nous allons passer à Mémographie Live. Vous avez choisi Kayla Still, dites-moi, et mon anglais.
This is me.
This is me, c'est facile, Angelo, tu peux le faire quand même. I am not a stranger to the dark. Hide away. They say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down? I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me.
This is me. Here I come.
Émilie, pourquoi cette chanson représente votre passé ?
En fait, c'est une chanson qui m'a un peu accompagnée dans la fin de mon adolescence, j'ai envie de dire, quand j'avais à peu près 18 ans. Et pour moi, elle représente ce passage qu'on a souvent quand on est jeune adulte et où on commence à se construire et à se rendre compte de qui on est et de comment on accepte qui on est. Et cette chanson, pour moi, c'est ça, c'est accepter qui je suis et avec qui j'ai envie de continuer ma vie. Et ce que je suis d'accord de poursuivre et non, et les relations qui continuent ou pas.
Vous savez ce que vous voulez ?
Je pense, ça commence.
En tout cas, This Is Me, c'est quand même fort. Enfin, c'est très chouette parce que c'est assertif et en même temps, c'est tout à fait intégré. Donc, c'est pas agressif, c'est moi. Voilà, je suis comme ça. C'est magnifique. Bien. Il vaut mieux le savoir le plus tôt possible, ce genre de choses. Ouais, c'est chouette.
Nous allons passer à la rubrique hommage. Je vous ai demandé, chacune de vous deux, de choisir quatre personnes qui vous ont aidé pour vos projets. Alice ?
Alors forcément, mes parents, parce qu'ils m'ont laissé la possibilité de pouvoir aller vers cette discipline qui m'a vraiment qui m'a permis de devenir moi-même. On parlait tout à l'heure de timidité, j'ai oublié de rebondir. Mais vous avez en face de vous une ancienne timide. Et c'est clair que c'est quelque chose qui va complètement changer la personne. Mmh. La musique en général et d'autant plus le chant. Et donc mes parents qui... au départ, c'est surtout mon père qui était grand amateur de musique classique, qui me faisait écouter notamment du Dvorak, du Wagner. Enfin, Wagner, c'était plutôt mon style à moi un peu plus tard quand j'étais en formation musicale. Moussorgsky, Mozart, évidemment. Et au départ, j'imitais les chanteuses opéra. Je dansais. Je faisais mes petits bas de danse classique. Il restait quand même des petites bribes de mes cours de danse classique. Et je passe mon temps à imiter les chanteuses opéra. Et j'écoutais notamment Maria Callas. Mais par la suite, ça m'est passé. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de chanteuses actuelles qui sont plus dans mes goûts.
Oui.
Les modernes.
Mm-hmm. Et vous, Émilie, les gens qui vous ont aidé ?
Mais je pense qu'il y a aussi mes parents, principalement, qui m'ont beaucoup soutenue et inspirée. Et puis alors, il y a ma sœur, parce que j'ai une sœur jumelle, et elle m'a toujours énormément soutenue également, et inspirée beaucoup dans mes créations. Et alors, mes amis, et notamment Mélissa, qui a été ma meilleure amie depuis le début de mes études et avec qui je me levais tous les matins parce qu'on habitait ensemble et avec qui on passait nos journées en cours et qui m'a aidée à ne pas abandonner quand il y avait des moments de doute. Et franchement, un grand merci à elle.
C'est magnifique. Et moi, je constate, ça fait quelques fois, hein, quelques émissions quand même qu'on fait. Et alors que ce soit des jeunes comme vous, eh bien, chaque fois, que tu poses cette question, Angelo, moi je suis très, très émue parce que chaque fois il y a un remerciement aux parents qui ont donné une permission dont je parlais tout à l'heure, mais que ce soit des chanteurs de rock ou de métal, enfin je veux dire, ils ont choisi leur voix, mais ils ont été d'abord soutenus par leur milieu, leurs amis aussi, comme vous disiez très justement, et c'est très important si chaque enfant pouvait avoir cette...
Oui, tout à fait.
Bon. C'est pas toujours le cas. Mais bon, voilà.
Dites-nous vos points forts et vos points faibles, chacune de vous deux.
Tu veux commencer ?
Oui. Mais je pense qu'un des points forts, c'est qu'une fois que je me lance dans un projet, j'ai beaucoup de rigueur et de discipline pour celui-là. Et je peux travailler des heures durant sans faire de pause. Et j'ai une capacité de production assez bonne. Et donc, c'est un point assez fort. Et peut-être pour un point faible, c'est cette constante remise en doute. Et mais je pense que c'est propre à beaucoup d'artistes. Je ne sais pas si Alice est d'accord ou pas.
Excuse-moi, j'étais en train de dire un petit cahier.
Mais le fait qu'on doute beaucoup, et moi, c'est quelque chose qui parfois, oui, me fait trop penser et m'empêche d'avancer, je pense. Donc voilà.
Est-ce que le doute empêche d'avancer ou simplement on s'arrête et puis on repart ?
C'est prendre du recul peut-être.
C'est peut-être pas empêcher d'avancer, c'est peut-être se dire je suis sur un truc, ça ne me convient pas, donc je fais une petite pause. Et puis c'est intéressant de douter, parce que si on enlève le doute...
Ouais, être trop sûr de soi, c'est
la certitude, c'est peut-être... Enfin, pas trop de doute, évidemment, sinon on n'avance pas
question
du tout.
Question d'équilibre.
Exactement.
Ah,
c'est comme le champ, l'équilibre, c'est toujours le point le plus important.
Oui, ouais, ouais, tout à fait.
On pousse, mais pas trop. On respire. J'allais dire, mais pas trop, mais s'il faut.
C'est ce que j'allais dire aussi, je me suis dit.
On ne s'arrête jamais. Vaut mieux pas.
Non. Alice Barré, vous avez des événements?
Ah, on ne parlait pas des
points faibles.
En fait, je vais switcher de mes points faibles. Mon pire point faible, c'est l'hypersensibilité, mais qui est devenu un point fort. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient ça, qui avaient ce trait de caractère bien spécifique. Le fait de faire attention aux détails, l'empathie décuplée, les émotions ressenties plus fort que les autres, plus facilement stressées également ou stimulées. Voilà, au départ, c'est perçu par pas mal de personnes comme un point faible, mais si on l'utilise comme une arme, ça peut être assez intéressant.
Et par rapport aux émotions, vous ressentez aussi les émotions des autres personnes ?
C'est ça. Alors ça, il faut. On parlait tout à l'heure de gestion des émotions. Quand un élève a réussi à faire quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire avant, ben c'est top. Mais en même temps, on ne va pas pleurer de joie avec lui parce qu'il faut. On est aussi là pour. Pour calmer les choses ou pour expliquer ce qui se passe, parce que ça peut être un peu décontenançant. J'avais une des autres personnes qui m'ont permis, qui m'ont aidé dans mon parcours artistique. Je n'ai pas parlé de mon professeur de chant, Gerda Hartmann, qui donnait cours au Conservatoire de Mons, où j'ai étudié notamment après Bruxelles, qui était prof également au CNSM de Paris. Elle, par exemple, elle était très très dure. et une fois, j'ai eu une émotion forte parce qu'une note que je n'arrivais pas à atteindre avant. Est apparue, j'ai réussi à la sortir cette fois-là. Et cette fois-là, je me suis ramassé un savon, en fait. Non, je ne dois pas ressentir d'émotion, c'est grave, il faut maîtriser et tout. Et je me souviens que j'étais un peu choquée. Alors, il faut accueillir l'émotion et puis aider l'élève, lui dire, bah top, on va essayer de le refaire. Maintenant que tu as réussi à le faire, on va essayer de le refaire. Et le refaire, et le refaire, et le refaire. Et puis le refaire à la maison aussi. Mais donc voilà, il y a des choses. Je crois que quand on a eu pas mal de profs de chant, ce qui est mon cas, ce qui est le plus important, c'est d'avoir pris le meilleur de chaque prof.
Oui, voilà.
Et garder ce qui est essentiel et oublier le reste. Parce que nul n'est parfait. Il y a plein de choses qui ne sont pas valables chez les profs qu'il faut savoir détecter. Et...
Tout à fait. Elle voulait peut-être une perfection sans émotion, ce qui n'est pas du tout...
Je ne sais pas trop ce qu'elle voulait, mais... Elle était d'un naturel dur, mais elle était très efficace.
Alors voilà.
C'est le plus important. Hein.
Vous voulez rajouter des personnes qui vous ont aidé
Ah, tu en avais demandé 4.
Oui, mais...
Vous n'en avez pas 4...
Moi, j'ai pensé à Hugues Maréchal, qui a composé la musique de Piano Plage et qui était quand même quelqu'un d'exceptionnel et de profondément humain. Je dois dire que c'est quelqu'un qui m'a touchée dans mon parcours artistique.
Lou,
Je pense que je n'ai pour une fois rien à ajouter.
Vous avez des réseaux sociaux
Moi, je suis très nulle là-dedans. C'est plutôt du bouche à oreille.
Et alors, moi, j'ai un Instagram, c'est Émilie. Tiret du bas, Magnan, tiret du bas. Et alors Magnan, ça s'écrit M-A-G-N-A-N. Et alors également, j'ai un site internet, emily.magnan.be.
Emily, I-E.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce que parfois on pourrait l'écrire avec Y. Donc voilà.
Ah, oh. En fait, je me suis trompée. Oui, le site internet, c'est emilymagnan.be. Pas de point entre les deux.
D'accord. Oh, de toute façon, on trouve. Hein. On tape et je pense qu'on peut arriver. Ça, on répétera en fin d'émission, Angelo. Tu n'oublieras pas?
Non, j'oublie pas. Alice, vous avez des événements?
Prochain, pas encore, mais si je peux passer une petite annonce, justement, je suis en recherche de professionnels dans la région, parce que évidemment, quand je trouve du travail, c'est souvent à Bruxelles, le Brabant wallon. Et bon, j'aimerais bien que ça se passe un peu plus ici. J'ai une vie de famille et c'est vrai que passer ma vie sur la route, ça, c'était avant.
Oui.
Bien avant. Et donc, si je trouvais quelqu'un, un producteur musical, donc quelqu'un qui compose ses musiques d'une manière professionnelle, ça serait top. Parce qu'il y a pas mal de groupes sympas, mais un vrai professionnel qui fasse vraiment quelque chose de chouette, de ciblé et qui soit vraiment dans... qui soit ouvert au mélange des styles. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Oui, on en a parlé. Oui, hein, ouais,
en aparté tout à l'heure.
Tout à fait en aparté, hors direct. Et donc un mélange des styles.
Oui, tout à fait.
Donc vous pourriez très bien envisager de chanter avec un groupe rock, par exemple, comme Freddie Mercury l'a fait tout avec Montserrat Caballé.
Ou le style Within Temptation.
Alors, expliquez-moi.
Within Temptation, c'est une chanteuse qui a une voix à connotation plutôt lyrique,
oui.
Avec un groupe de métal derrière. Donc c'est, auparavant, j'ai joué avec des groupes sympas, c'était du métal médiéval, il y a eu l'électro. Tout à l'heure, on entendra un extrait qu'on avait réalisé avec le DJ BDR, quelqu'un de la région. Et alors, il y a eu un autre style, mais ça me reviendra tout à l'heure.
Oui, oui, ça, il faudrait qu'on en parle aussi. En fin d'émission, on fait un récapitulatif.
D'accord.
Pour donner. Et ça, ce serait... Moi, je vous avoue que la musique classique, personnellement, bah, oui, évidemment, j'aime beaucoup Mozart, Bach, Purcell, etc. Mm-hmm. Mais j'aime particulièrement le mélange des genres.
Ah.
Ah oui, ça, je trouve que ça amène quelque chose, mm-hmm. comme sans doute dans tous les arts.
Oui, tout à fait. C'est l'avenir, en fait.
Je pense.
Émilie, quel est votre rythme de travail quand vous faites des dessins? Vous avez un rythme...
Ah, mon rythme, c'est assez soutenu, donc généralement quand je suis en pleine production, ça va, je commence à partir de 10h, donc c'est un peu tard, mais je finis vers 11h, minuit, donc c'est, je prends le temps de manger, quoi, mais c'est souvent assez intense.
Vous êtes absorbée?
Oui, c'est ça, en fait, c'est, j'ai envie de finir et de continuer, et chaque fois de voir l'évolution.
Vous dépassez l'écrivain Blaise Cendrars qui disait que pour écrire, il fallait écrire 8 heures par jour. Si j'ai bien compris, de 10 heures à 10 heures, c'est beaucoup plus.
Oui, mais il y a quand même un peu du temps de réflexion. Je ne suis pas toujours avec mes crayons, mais c'est vrai que c'est dans l'atelier en général.
Oui, très très concentré.
Émilie, mm-hmm. nous allons écouter une chanson qui symbolise votre présent. Vous avez choisi...
J'ai choisi... Je suis perdue.
Natasha Bedingfield.
Oui, c'est ça. Pardon.
Vous n'êtes pas perdue dans le présent.
Je pensais que c'était
le titre de la chanson. Claire, hein, ce sont les papiers, là. Hein. C'est... c'est pas la chanson.
Et la chanson s'intitule Unwritten.
Unwritten. Pas encore écrit.
Yeah.
Émilie, dites-nous en plus, vous êtes lauréate du prix du Luxembourg.
Oui, donc en effet, la fameuse exposition au CACLB de l'année passée, c'était pour le prix du Luxembourg et j'ai été désignée lauréate.
Et félicitations. Donc,
merci beaucoup, c'était une super expérience en fait, et vraiment une surprise, et je suis extrêmement fière et encore émue d'avoir reçu ce prix.
Et est-ce que certains de ces dessins sont toujours visibles dans l'exposition dont je voulais reparler, qui est en cours à Bruxelles? C'est autre chose?
C'est autre chose, oui. D'accord. Là, j'ai qu'une pièce à Bruxelles. Enfin, c'est déjà une pièce. Oui. Et les autres dessins, ils ont un peu voyagé dans d'autres expos, mais je pense que là, ils sont un peu à la fin de leur parcours. Donc, je ne sais pas si je les remontrerai encore. Mais
est-ce qu'un dessin n'est jamais à la fin de son parcours? C'est peut-être une question de temps. Je n'en sais rien.
Lou?
Ah ben, je n'en sais rien, moi.
Nous allons passer à Alice Barret. Vous voulez dire...
Oui.
Vous voulez dire ?
Je voulais dire, rappeler...
Oui, c'est ça.
...que tout à l'heure, quand nous avons entendu cette magnifique voix dans Apfin's Travels...
Non, c'était l'air de Pamina, tiré de La Flûte Enchantée. D'accord. De Mozart. Apfin's Travels, c'est ce qui vient au troisième extrait.
Je me trompe. Mais les auditeurs sont habitués. Donc je ne suis pas du tout stressée.
Ça, c'est du live. Hein.
voilà, donc nous allons entendre.
Non, on l'a déjà écouté. C'était simplement pour dire que c'était bien moi. Parce que c'était pas
clair. Et on ne vous entendra plus aujourd'hui.
Si, nous allons écouter.
Aussi dans les deux prochains.
Alors je reparlerai après plutôt que de dire de bêtises.
D'accord.
Nous allons écouter Il faut sauver le clan.
Ah. Oui, c'est tiré du spectacle rock familial Piano Plage.
Qui voudrait l'enfermer? La colère, le mépris, Igor a essayé. Rien n'y fait, elle reste étourdie. Et je me fatigue à lutter sans répit.
Son ignoble attitude pourrait semer le trouble. Il faut réagir vite avant qu'elle ne nous double. Il suffit que Parker soit parti loin d'ici.
Car tu me blesses. As-tu tout oublié? Pense à notre jeunesse. J'en suis sûr, toi aussi tu as connu l'amour. Qu'elle en profite avant que ne passent les beaux jours. Crois-moi, quoi que tu dises, elle fait partie du clan. Pardonne ses erreurs, ne tue pas son élan.
Quelque chose se tombe, attends.
cela doit cesser. La famille avant tout, d'abord il y a le grand. Mais cela doit cesser, au diable cette idylle, j'oublie l'important. Qu'allais-je faire, grand Dieu? J'allais baisser les bras, elle devra sacrifier son amour à ma loi, son amour à ma loi.
Magnifique.
Merci.
Alors, je ne vais pas me tromper de titre cette fois. C'était « Il faut sauver le clan ».
C'est ça.
Eh bien, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Mais moi, je suis d'une génération rock. Hein. Ah, ça m'a fait penser à Jacques Higelin, qui chante avec une chanteuse d'opéra. Et je ne connais plus le nom. Ah oui, oui, oui. Un morceau qui est très peu connu.
Ah, faudrait que j'écoute ça.
Oui, 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 oui. Et c'était juste... décalé. Mm-hmm. Et je comprends que vous vouliez chanter avec éventuellement un groupe professionnel de rock ou un groupe professionnel de métal ou un groupe professionnel de n'importe quelle autre musique.
Tout à fait,
hein. Parce que je trouve que il y a évidemment votre voix qui est bon, magnifique, mais il y a aussi ce que vous y mettez. On sent qu'il y a quelque chose en dessous. Enfin, moi, j'y suis sensible. Voilà.
Merci beaucoup.
Vous mettez tous vos tripes.
Tout à fait. Pas tout, sinon c'est dangereux pour la santé. Mais j'avoue qu'on zone à fond à chaque fois. Là, c'était la famille des Philharmoniques dans la comédie musicale, dont Nathalie Stas était metteur en scène. Donc, je lui fais un petit coucou. Je ne sais pas si elle écoute ou si elle écoutera plus tard.
En podcast, peut-être.
Oui, et en tant que compositeur, il y avait également Alec Mention.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et donc, c'était une super aventure. Ça ressemblait pas mal à l'idée de Roméo et Juliette. Il y avait la famille Excentrix qui était en bataille incessante avec la famille des Philharmoniques. Et ah, c'était leur mélange des genres aussi.
Ah oui, les Montaigu, les Capulet.
Tout à fait.
Oui.
Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Mm-hmm. Je crois qu'il y a des choses à rajouter, on a dit tout.
Je pense que j'avais dit. Hein,
Peut-être à quel âge on peut commencer le lyrique, j'ai eu cette question tout
oui,
à l'heure.
Oui, oui.
Mais dès le berceau.
Les bébés sont lyriques au berceau.
Non, ils le font naturellement comme ça. Non, je vais expliquer. C'est plutôt à l'inverse. On essaie de retrouver sa voix naturelle qu'on avait hyper puissante. Et d'une manière instinctive, en naissant, justement, ces voix de bébé incroyables, on essaye de retrouver ce naturel dans la voix.
Ah oui.
Même, après des années de chant, il faut parfois plus défaire que refaire. J'ai toujours laissé résonner, laissé faire, au lieu de faire les choses. Et sinon, à partir de 7 ans, le mieux à faire, c'est de prendre des cours de formation musicale si on veut se destiner au classique. Et pour la pop, c'est-à-dire 90% des élèves que j'ai, on fait de toute façon une part de classique avec des arias antiquées, des choses comme ça, pour asseoir une technique correcte et surtout protéger ce matériau hypersensible. Oh, lapsus. qu'il faut absolument protéger parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts avec la voix.
Oui.
Et il faut vraiment... je ne dis pas que tout le monde doit prendre des cours. Mais disons que si on veut chanter sans se faire mal et pas avoir une voix avec un vieux vibrato, les voix vieillissantes, par exemple, on peut chanter longtemps avec une superbe voix. Et si on a une bonne technique et si on s'écoute soi-même.
Donc on peut encore chanter.
Mais oui.
Et pour le dessin, la même question, le dessin. Les enfants, on leur dit, mais tu ne sais pas dessiner, toi.
Moi, je pense que le dessin, ça s'apprend à tout âge. Et c'est justement ça reste pas restreint à l'idée du don. Et mmh. c'est quelque chose qui s'apprend avec beaucoup d'exercices, de pratiques. Et en fait, le dessin, c'est la traduction de ce qu'on voit. Et donc, c'est vraiment une question d'observation, finalement. C'est comment on observe le monde. Et quand on dessine, en fait, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est regarder constamment, finalement, ce qu'on dessine. Et presque pas regarder sa feuille, parce qu'on doit observer et rendre ce qu'on a vu. Voilà.
Donc, vous êtes une observatrice.
Oui.
Nous allons rappeler vos réseaux.
Oui.
Émilie.
Donc, c'est Émilie-du-bas. Magnan-du-bas pour mon Instagram. Et donc Magnan, ça s'écrit M-A-G-N-A-N. Et alors, pour mon site internet, sans faute cette fois-ci, c'est emiliemagnan.be.
Ben merci. Alice ?
Alors, aucun réseau social pour le moment, mais c'est pour le moment. Mais par contre, on peut me retrouver sur Facebook, Alice Barré. Voilà, j'ai mis mon propre nom.
Merci à Lou et à Nathan pour cette émission aussi et à nos invités qui ont accepté l'invitation.
Merci à vous.
Nous
beaucoup.
Allons nous quitter avec une de vos chansons.
Donc Absinthe Travels qui avait à l'époque était voilà.
Enfin voilà Absinthe Travels.
Donc c'est à l'époque où je travaillais avec DJ BDR de la région d'Arlon.
Ben, merci aux auditeurs.
Merci à vous et n'oubliez pas de nous réécouter en podcast.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.